Les amphis d'Amicus.
Dans cette édition spéciale, les étudiants de Master 2 de l'Université Paris Panthéon-Assas prennent la parole et partagent leur regard sur des questions juridiques actuelles autour du micro d'Amicus Radio.
Aujourd'hui, Aubin Jupin nous parle de l'adaptation de la procédure pénale au phénomène terroriste. Épisode 3, adaptation de la procédure pénale au stade du jugement.
Chères auditrices, chers auditeurs, dans l'épisode précédent, nous avons étudié le régime dérogatoire de la procédure pénale en matière terroriste au stade de l'enquête et de l'instruction. Progressant peu à peu dans le processus judiciaire, nous en arrivons à l'étape du jugement proprement dit. Là aussi, le phénomène terroriste impacte substantiellement toutes les parties au procès. Le jugement est à la fois un aboutissement et une transition entre deux périodes. Une phase d'investigation caractérisée par le doute et une phase de purgation de la peine caractérisée par l'espoir d'une réhabilitation, d'une réinsertion du coupable. C'est aussi, de tout le processus pénal, la phase la plus exposée au regard de l'ensemble de la société. Dans le cadre des infractions terroristes, sans doute plus que dans le contentieux de droit commun, le procès est non seulement le lieu du jugement de l'accusé, de détermination de sa culpabilité et de sa peine, mais aussi le lieu de la réparation. Une réparation individuelle pour chacune des victimes qui vient déposer un peu de sa douleur à la barre et qui peut espérer que sa peine s'apaise un tant soit peu, une fois la justice rendue. Une réparation collective aussi, la société conjurant ses démons dans un rituel organisé et structuré. La procédure pénale a fait l'objet d'une adaptation au phénomène terroriste qui concerne tant l'organisation des juridictions que le déroulement même du procès pénal. Cette adaptation sera essentiellement observée du point de vue du crime terroriste, la procédure pour les délits étant moins spécifique. La première spécificité concerne la compétence même des juridictions pour les actes terroristes. Dans le droit commun, la compétence de la juridiction pénale dépend du lieu de commission de l'infraction. En matière terroriste, en plus de cette compétence classique, s'ajoute une compétence nationale de la Cour d'assises de Paris. Cette compétence est dite concurrente, car l'affaire peut être confiée à l'une ou l'autre des juridictions, en fonction de sa gravité et de ses implications locales ou nationales. Dans les faits, la juridiction parisienne est largement à l'avantage en raison de sa forte spécialisation et de ses importants moyens, de sorte que le professeur Yves Maillot a écrit qu'il s'agissait d'une compétence de principe. L'idée qui prédomine et que l'infraction terroriste est généralement à la fois trop importante en termes d'ampleur et trop sensible socialement et politiquement pour être laissée à des services non spécialisés. La deuxième spécificité de la procédure pénale en matière terroriste est la composition de la cour d'assises. On accole en effet l'adjectif spécial à cette cour d'assises, car le jury populaire est remplacé par 4 magistrats professionnels en première instance et 6 en appel. Cette particularité, introduite par la loi du 9 septembre 1986, a pour objectif de protéger les simples citoyens en leur évitant de devenir des cibles du terrorisme pour leur participation au processus judiciaire. Il s'agit néanmoins d'une importante entorse à la tradition du jury populaire qui remonte à la Révolution française. Avec le jury, c'est toute la société qui juge et condamne. On peut se demander si celle-ci ne serait pas d'autant plus fondée à jouer ce rôle en matière terroriste pour des actes qui touchent la nation entière. Quoi qu'il en soit, la cour d'assises spéciale ne se voit pas appliquer les règles relatives au jury, et la majorité qualifiée de droit commun est remplacée par une majorité simple pour la détermination de la culpabilité et de la peine. Le ministère public, chargé de défendre les intérêts de la société pendant la procédure, fait également l'objet d'une adaptation en raison de la création du parquet national antiterroriste. C'est ce parquet, représenté par le procureur de la République antiterroriste ou l'un de ses substituts, qui constitue le ministère public en première instance au lieu du procureur général. De même, en appel, le procureur général peut se faire représenter par un membre du parquet national antiterroriste. Que cela soit pour le siège ou le parquet, la question d'une anonymisation des décisions de justice en matière terroriste se pose depuis plusieurs années. À partir de 2016, des membres de l'administration judiciaire, comme le président de ce qui était alors le tribunal de grande instance de Paris, ont demandé aux journalistes de taire les noms des juges impliqués dans les affaires terroristes afin de ne pas les mettre en danger. On craint en effet que les magistrats antiterroristes, comme les policiers, deviennent des cibles prisées. On peut cependant arguer que la publicité des audiences est un élément essentiel de notre état de droit, et qu'empêcher les journalistes de divulguer les noms des magistrats serait une atteinte grave à la liberté d'informer. En cette matière, tout est question de proportionnalité entre deux aspirations légitimes. celle de sécurité des magistrats et celle de liberté d'expression des journalistes et du public.
V13, Chronique judiciaire, un ouvrage d'Emmanuel Carrère aux éditions Paul, 2022. Aux assises, la justice est rendue par un jury populaire, composé de citoyens tirés au sort. Dans les affaires de terrorisme, la cour est composée, par crainte de représailles, de magistrats professionnels, pour qui cela fait partie des risques du métier. Autour du président, ils sont donc quatre magistrats, ou plutôt, elles sont quatre magistrates. On s'y habituera, mais l'effet est bizarre. Il tient à ce que la justice est une profession à la fois machiste et majoritairement féminine, cela allant de pair avec le fait qu'elle est de plus en plus mal payée. On dit que le procès de Charlie Hebdo, en janvier dernier, s'est mal passé parce que le président manquait d'autorité, et qu'on a choisi pour cette raison Jean-Louis Périès, un magistrat proche de la retraite, solide, madré, dont le grand-père était greffier au tribunal de Foix, dans l'Ariège, et le père, le juge d'instruction de l'affaire Dominici, cette tragédie rurale qui a été, dans les années 1950, un de nos grands faits divers nationaux. Périès, de fait, a l'air d'un paysan, ou d'un prof de lycée à l'ancienne, sévère de prime abord, mais avec un bon fond.
La victime de l'acte terroriste, qu'il s'agisse de l'individu personnellement touché par l'infraction ou d'un proche, dispose également d'un statut particulier. Dans le droit commun, se constituer partie civile permet à la fois de demander une réparation pécuniaire ou en nature pour le dommage subi, c'est l'action civile, mais aussi de participer au processus pénal, notamment en intervenant à l'audience. La présence de la victime devant la juridiction a donc autant une fonction civile, réparatrice, qu'une fonction pénale, vindicatoire. En matière terroriste, la constitution de partie civile est uniquement vindicatoire. Depuis la loi du 23 mars 2019, la demande de réparation civile du préjudice subi ne peut être présentée que devant le tribunal judiciaire de Paris. Dans les faits, la victime doit s'adresser au Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions, le FGTI, un fonds alimenté par la solidarité nationale. Ce n'est qu'en cas de désaccord avec la somme proposée par le FGTI que la victime pourra porter sa demande devant le tribunal judiciaire. Malgré cette procédure aménagée, la place de la victime dans le procès pénal est loin d'être anodine. Le procès des attentats de novembre 2015 est à cet égard une illustration particulièrement frappante, puisque la Cour consacra plusieurs semaines entières à écouter les témoignages des victimes sur les faits et sur leurs conséquences, ainsi que leurs nombreux avocats. Cette place de la victime est une place symbolique, qui permet de dire la souffrance et la peine d'une blessure physique ou psychologique d'un proche disparu soudainement. Elle est le témoin de ce que le procès est un acte social, communautaire, au sens noble du terme. Si l'on a instinctivement en tête les grands procès, il ne faut pas oublier que la qualification de terrorisme peut s'appliquer à des actes beaucoup moins complexes, comme l'apologie du terrorisme, qui ne sont en outre pas des crimes, mais des délits. Pour ces affaires plus simples, la pratique a créé un circuit court spécialisé afin de désencombrer le parquet national antiterroriste et éviter la saisine d'un juge d'instruction. Ce circuit juge également les terroristes présumés morts afin de permettre une incarcération rapide en cas de retour impromptu. Dernière question, le lien entre procès du terrorisme et enregistrement audiovisuel des audiences. Depuis la loi Badinter du 11 juillet 1985, tout procès présentant un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice peut être filmé. On s'est demandé dans quelle mesure les procès du terrorisme participaient de cet intérêt et s'il fallait systématiquement les enregistrer. Cette procédure est à la discrétion du président de la Cour. Par exemple, dans le cadre de l'affaire Mera, le président a refusé l'enregistrement du procès et sa position a été confirmée par la Cour de cassation qui se repose sur l'appréciation du juge du fond. En revanche, le procès des attentats de novembre 2015 a été entièrement filmé. En conclusion, si la procédure pénale au stade de l'audience se fonde sur le droit commun, ces nombreuses adaptations en font un processus résolument singulier, dans l'optique de garantir les intérêts de la société, tout en ménageant ceux de la victime et de l'accusé. Je vous remercie de votre écoute. Dans le prochain épisode, nous étudierons ensemble les spécificités de la procédure pénale en matière terroriste dans la phase post-sentencielle.
Cet épisode des Amphis a été produit par Amicus Radio, avec le soutien de la Fondation Panthéon Assas, qui encourage et valorise l'entrepreneuriat étudiant. Merci à la professeure Cécile Chenet et à Aubin Jupin pour leur aide précieuse dans la coordination de ce projet. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre Amicus Radio sur les réseaux sociaux.